Bonjour à toutes et à tous. Au micro, Idrissa Seroudia. Dans cette édition du Monde aujourd'hui, les dernières nouvelles sur le coronavirus, le premier tour des législatives au Mali malgré la pandémie, des actes de violence à Lubumbashi en République démocratique du Congo, au Burkina Faso et en Somalie, sans oublier la Minute Éco et notre page sport. Pour commencer, le coronavirus, selon les estimations du docteur Anthony Fauci, conseiller du président américain Donald Trump, le COVID-19 pourrait faire entre 100 000 et 200 000 morts aux États-Unis. Il a toutefois appelé à la prudence sur les projections. Pour sa part, le président Trump a estimé que la mortalité liée au coronavirus atteindrait son pic dans le pays, probablement dans 2 semaines, tout en prolongeant jusqu'au 30 avril des recommandations de distanciation sociale. L'université Johns Hopkins estime à plus de 139 000 le nombre de cas positifs aux États-Unis, un record à travers le monde et un total de 2436 décès, dont 965 dans l'État de New York qui compte à lui seul près de la moitié des infections. Il y a dans le monde près de 697 750 cas positifs, dont au moins 33 244 décès, selon un décompte de l'AFP. La capitale russe, Moscou et Lagos au Nigeria rejoignent ce lundi plus de 3 milliards d'habitants de la planète confinés chez eux à cause de la pandémie. En Afrique, la Côte d'Ivoire a enregistré dimanche son premier décès dû au coronavirus, a annoncé dimanche le ministre de la Santé. Il a souligné que le diagnostic avait été établi post-mortem. 25 nouveaux cas ont été officiellement enregistrés dimanche pour un total de 165. Ce nombre a été presque multiplié par 7 en une semaine. Le président Alassane Ouattara avait décrété lundi soir l'état d'urgence et instauré un couvre-feu de 21h à 5h du matin, entré en vigueur mardi. L'isolement de la capitale économique Abidjan du reste du pays, initialement prévu jeudi, devait entrer en vigueur dimanche à minuit. Au Mali, crainte du coronavirus et de la menace djihadiste et aussi enlèvement du chef de l'opposition Soumaïla Cissé, les électeurs se sont rendus aux urnes en ordre clairsemé dimanche pour élire leurs députés au cours de législative, pourtant à fort enjeu. Nous y reviendrons en seconde partie avec notre correspondant sur place, Kassim Traoré. Au Burkina Faso, 3 gendarmes burkinabés ont été tués et 3 autres blessés dimanche dans une attaque à l'explosif à Gomboro, localité située dans la région nord-ouest de la boucle de Mouhoun, selon des sources sécuritaires. Les attaques avec des engins improvisés se sont multipliées depuis 2018 au Burkina, coûtant la vie à près de 150 personnes selon un décompte de l'AFP. Ces attaques sont souvent couplées à des embuscades. En Somalie, un gouverneur local, un ancien commandant de la police et un passant ont été blessés dimanche à Garoué, dans la région semi-autonome du Puntland, dans un attentat mené par un kamikaze qui s'est fait exploser à proximité de la voiture du gouverneur. L'attentat a été revendiqué par les militants islamistes radicaux Shebab. Affiliés à Al-Qaïda, les Shebab ont juré la perte du gouvernement somalien, soutenu par la communauté internationale et les 20 000 hommes de la force de l'Union africaine en Somalie. La Corée du Nord a testé avec succès des lanceurs de roquettes multiples de très gros calibre, a rapporté lundi l'agence de presse officielle nord-coréenne au lendemain de tirs de projectiles par Pyongyang. Ces tests ont été effectués alors que l'attention de la communauté internationale se focalise sur la lutte contre le COVID-19 et après une offre d'aide de Washington à Pyongyang pour combattre le nouveau coronavirus. Le contexte est également l'impasse diplomatique entre la Corée du Nord et les États-Unis sur le dossier nucléaire. Pyongyang est sous le coup de multiples sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU pour l'obliger à renoncer à ses programmes nucléaires et balistiques interdits.
La suite de l'actualité, le Bénin n'a pas les moyens des pays riches pour prendre des mesures de confinement strictes dans la lutte contre la propagation du coronavirus, a déclaré hier le président Patrice Talon. Les détails avec Michel Joseph.
Le Bénin n'a pas les moyens des pays riches pour prendre des mesures de confinement strictes dans la lutte contre la propagation du coronavirus, a déclaré hier le président Patrice Talon. Pour accompagner les réductions de mobilité et les confinements, les pays riches débloquent des sommes faramineuses et certains ont même recours à la planche à billets pour prévenir le chaos socio-économique, a déclaré Patrice Talon, ajoutant que le Bénin ne dispose pas de ces moyens. 8 grandes zones urbaines, dont Cotonou, la capitale économique, seront entourées d'un cordon sanitaire et les transports en commun suspendus à partir d'aujourd'hui, le 30 mars. Cependant, beaucoup de Béninois s'interrogent sur le nombre peu élevé de personnes contaminées au coronavirus, seulement 6 malades jusqu'à hier matin. Le Togo voisin, avec 28 cas, et le Ghana, 141 cas, ont adopté des mesures strictes de confinement et de restrictions de mouvement. La semaine dernière, une manifestation des étudiants de l'université d'Abomey-Calvi, qui réclamait la fermeture de leur établissement et de toutes les écoles du pays, a fait un mort. Finalement, le gouvernement a fermé les écoles et lieux de culte.
L'Espagne a enregistré 838 morts du coronavirus en 24 heures. Un nouveau record pour le pays, portant le bilan à 6500. Mesures de confinement ont été renforcées, crainte d'une saturation dans les hôpitaux. Bagasikoura.
Le nombre de personnes en soins intensifs ne cesse d'augmenter. On ne peut plus admettre un seul malade de plus, a déclaré Eduardo Fernandez, infirmier à l'hôpital Infanta Sofia de Madrid. Plusieurs régions ont atteint les limites de leur capacité, a averti Fernando Simon, directeur du centre d'urgence sanitaire. Le deuxième pays le plus endeuillé a battu son record de morts en 24 heures et compte 78 797 cas, juste derrière l'Italie, qui a compté 10 779 morts pour 97 689 cas confirmés. Madrid a dû monter un hôpital de campagne qui pourrait atteindre jusqu'à 5 500 lits dans une foire commerciale et a improvisé 2 morgues, dont une dans une patinoire. Dans le même temps, une note positive, le nombre de personnes guéries a augmenté de 19,7% en 24 heures pour atteindre 14 709 cas. 46 millions d'Espagnols sont déjà soumis depuis mi-mars à un confinement strict. À partir de ce lundi, seules les activités essentielles comme les soins de santé, la production de produits médicaux et pharmaceutiques, l'énergie et les transports sont autorisés jusqu'au jeudi 9 avril, début du week-end de Pâques.
En République démocratique du Congo, au moins 31 assaillants ont été tués dans la région de Lubumbashi, la deuxième ville du pays. Les forces de sécurité ont repoussé plusieurs incursions de fidèles de l'ex-chef de guerre Mutanga Kiungu. Le point avec Bagasi Koura.
L'Association de défense des droits de l'homme, Justicia, dénombre 7 morts parmi les assaillants à Lubumbashi et un policier tué. Elle compte aussi 13 assaillants tués à Likasi, 9 à Kasumbalesa, près de la frontière avec la Zambie, 2 à Bukeya, une autre localité de la province du Katanga, première réserve mondiale de cobalt. L'ONG condamne la tentative de déstabilisation menée par les miliciens et dénonce dans le même temps une boucherie humaine, accusant l'armée d'avoir ouvert le feu sans sommation. La police a indiqué samedi que les miliciens ont été repoussés sans donner plus de détails. Gédéon Kiungu Mutanga, leur chef, a quitté sa résidence à Lubumbashi, avait ajouté la police sans préciser s'il était placé en résidence surveillée ou en état d'arrestation. L'ex-chef rebelle sécessionniste a été condamné à mort en mars 2009 pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, mouvement insurrectionnel et terrorisme. Il s'est évadé en septembre 2011, puis est réapparu en public à Lubumbashi en octobre 2016 lors d'une cérémonie officielle en son honneur.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nani Talani.
L'économie angolaise se contractera de 1,21% en 2020, alors que le coronavirus et la chute des prix du pétrole affectent les finances, rapporte l'agence Reuters. Cette contraction oblige l'Angola à réduire son budget. La ministre des Finances, Vera Davies de Souza, a déclaré que son pays réduira de 30% son budget des biens et services et recalibrera ses plans de dépenses sur la base d'un prix maximum du pétrole de $35 le baril, soit $20 de moins que prévu. Les banques égyptiennes sont invitées à appliquer des limites temporaires sur les retraits et les dépôts quotidiens, publie l'agence Reuters. La limite journalière est fixée à 10 000 livres égyptiennes pour les particuliers et à 50 000 livres pour les entreprises. Celles-ci sont exemptées de ces limites pour le paiement des salaires des employés. Les retraits et dépôts quotidiens aux distributeurs automatiques de billets sont limités à 5 000 livres. Ces mesures visent à contrôler l'inflation et la thésaurisation pendant que grandit l'inquiétude face à la propagation du coronavirus. Pour terminer, à compter du 1er avril, le Trésor public sud-africain introduira une nouvelle subvention fiscale de 500 rands, soit $28 par mois pour les 4 prochains mois, afin d'amortir les pertes financières subies par les entreprises en raison du coronavirus, affirme Reuters. La nouvelle mesure permettra également aux entreprises, dont le chiffre d'affaires est de 50 millions de rands au maximum, de retarder le paiement de 20% de leur passif fiscal au cours des 4 prochains mois.
Les sports à présent avec Élisée Ongpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Pendant que l'épidémie du Covid-19 met tout à l'arrêt, en Biélorussie, on continue à jouer au football.
Oui, le championnat biélorusse est visiblement le dernier en Europe où l'on joue encore, alors que la plupart des championnats européens sont suspendus en raison de l'épidémie du coronavirus, on continue à jouer au football comme si de rien n'était. La Vyschaïa Liga, équivalent de la première division, enregistre même des spectateurs dans des gradins, ainsi en a décidé la fédération. Le championnat était à sa deuxième journée hier et FC Minsk, vainqueur 1-0 de Smogon, partage la première place avec Energetic BDU et Torpedo Jodzina.
Pendant ce temps, la Fédération tunisienne de football a créé une cellule pour le suivi des joueurs étrangers.
Dans un communiqué publié sur sa page Facebook officielle, l'instance qui gère le football tunisien a annoncé qu'elle a mis en place une cellule pour le suivi des 130 joueurs étrangers évoluant dans les clubs tunisiens. Les responsables seront chargés de suivre l'évolution de l'état de santé de ces joueurs et interviendront en cas de besoin en collaboration avec les stades médicaux des différents clubs.
On reste en Tunisie pour dire que l'Espérance de Tunis a refusé de payer le club ghanéen d'Asante Kotoko.
Oui, une somme de $150 000 qui représente l'indemnité du transfert de Kwame Bonsou en provenance du club phare de Kotoko. Selon les infos, les sang et or n'ont pas réglé cette somme parce qu'ils attendent encore de recevoir la totalité du montant du transfert de leur ex-attaquant Emmanuel Clouté. Ce dernier a été cédé à Asante Kotoko en 2015 pour $180 000, un montant que le club ghanéen n'a toujours pas payé. Le dirigeant espérantiste Walid Harem a déclaré qu'au lieu de réclamer le montant du transfert de Bonsou, les Ghanéens devront d'abord payer les $30 000 manquants.
Élisée, la CAF aurait choisi une date pour les demi-finales de la Ligue des Champions.
Exactement, Idrissa. Zamalek Raja et Al Ahly Wydad de Casablanca n'auront pas lieu comme prévu les 1er et 2 mai prochains. Selon le site marocain 360, la Confédération africaine de football souhaiterait les faire jouer les 12 et 13 juin. Le comité d'urgence de la CAF ne compterait également pas changer de formule. Les deux chocs ne devraient donc pas avoir lieu en un seul match.
En Afrique du Sud, le coq sportif sera le nouvel équipementier des Bafana Bafana.
Après avoir enrôlé le Cameroun en avril 2019, le coq sportif vient de signer un nouveau partenariat avec une autre fédération de football sur le continent. Il s'agit de l'Afrique du Sud qui sera équipée par la marque française à partir du 1er juin prochain et ce pour les 5 prochaines années. Les Bafana Bafana étaient depuis 2014 en contrat avec le géant américain Nike.
Le Monde, aujourd'hui, VOA Afrique.
Idrissa Seydoudia. À présent, nos dossiers du jour. Au Mali, les Maliens ont participé timidement à élire dimanche leurs députés lors de législatives à fort enjeu. La peur du coronavirus étant présente dans de nombreux esprits après l'annonce du premier mort dû au Covid-19 dans ce pays longtemps épargné par la maladie. Les électeurs doivent renouveler les 147 sièges du Parlement en deux tours, ce dimanche et le 19 avril, lors de ce scrutin maintenu malgré la progression du virus, la persistance des violences et l'enlèvement du chef de l'opposition. De Bamako, une correspondance de Kassim Traoré.
Comme prévoit la loi électorale, les bureaux de vote ont ouvert vers 8h à Bamako.
Mon nom c'est Baya Cheikh Dambélé, je suis le coordinateur du centre de Misira. Et voilà, le matin, les difficultés qu'on a eu à rencontrer, c'était dû vraiment au dysfonctionnement. Et concernant les présidents des salles, on a su gérer ça parce que selon la loi, et quand le président est absent ou l'assesseur le plus âgé, on le fait remplacer par ce dernier. Donc on a su gérer ces problèmes-là. La majeure partie était déjà là.
Oui, ça a commencé très timidement, mais ça évolue quand même. Sinon, d'habitude, les gens ne sortent pas trop, mais cette année, il y a un plus. Parce qu'il y a des bureaux, à l'heure actuelle, il y a des bureaux. Il n'y a que deux votants. À 11h-10, il y a des bureaux où il n'y a pas plus de deux votants.
La présence du coronavirus a joué contre la participation des électeurs, surtout dans la matinée.
Chez moi ici, il y a 31 salles. Mais à l'entrée de chaque salle, on a mis le gel. Chaque électeur vote. Avant de voter, on te met le gel et après avoir voté encore, on te met le gel en même temps. Y compris les délégués et les agents électoraux également. Avec la pandémie, là, c'est pas facile. Et beaucoup de gens ont désisté de se rendre au centre. Si on ne vote pas également, il y aura forcément un vide constitutionnel. Donc pour éviter ça, c'est pourquoi on a organisé cette élection.
À la mi-journée, le centre de coordination des crises a fait le point. Azer Kamate, secrétaire général du ministère de la Sécurité et de la Protection civile.
La région de Mopti, 165 bureaux de vote non ouverts sur un total de 3272. La région de Tombouctou, 82 bureaux de vote non ouverts sur 2924. À Gao, un ensemble de 205 bureaux de vote tous ouverts. Il en est de même à Kidal pour un total de 112 bureaux de vote. Que sur l'ensemble du territoire national, nous avons 274 bureaux de vote non ouverts sur un total de 12469.
Le premier ministre malien a participé à cette première évaluation sur le déroulement du vote. Boubou Cissé, premier ministre du Mali.
L'affluence varie d'une zone à l'autre. De façon générale, on peut constater qu'il y a une affluence qui est à peu près satisfaisante. Autre aspect, c'est les dispositions que nous avons souhaité prendre pour la prise en charge de la pandémie Covid-19 dans les bureaux de vote. Nous avons fait un point sur cela aussi. On est à peu près satisfait, mais il y a des défaillances qui ont été observées dans certains centres et dans certains bureaux qui sont en train d'être corrigées au fur et à mesure. Et d'ailleurs, avec l'aide des électeurs qui se présentent dans ces bureaux, dans ces centres-là, parfois nous font remonter l'information directement et nous essayons de corriger au fur et à mesure.
L'un des enjeux est que le scrutin puisse se tenir dans une grande partie du territoire en proie à des violences quasi quotidiennes. À Kidal, ville au nord sous le contrôle d'ex-rebelle Touareg, le vote s'est déroulé tout comme à Tombouctou et d'autres villes du nord, sous haute surveillance de l'armée malienne. Il y a eu une très faible affluence, car de nombreux électeurs sont restés à la maison par crainte du coronavirus. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, c'est VOA Afrique, 24h sur 24.
En Guinée, la large victoire du oui au référendum constitutionnel pourrait permettre au président Alpha Condé de doter son pays d'une nouvelle constitution. La Cour constitutionnelle doit confirmer ou infirmer ses résultats provisoires qui donnent au oui 91% des suffrages exprimés. Le 22 mars, les Guinéens s'étaient rendus aux urnes pour le référendum constitutionnel couplé aux élections législatives. Un double scrutin qui divise les Guinéens. Le point avec notre correspondant en Guinée, Zakaria Camara.
Le oui l'emporte au référendum constitutionnel. C'est tout sauf une surprise pour ces Guinéens qui ne cachent pas leur soutien à la nouvelle constitution.
C'est la majorité du peuple de Guinée qui a voté oui pour le référendum, surtout pour la nouvelle constitution. Et quand vous prenez toutes les préfectures de la Guinée, je n'ai pas vu d'abord une préfecture où le oui n'a pas remporté. Il n'y en a pas.
Les gens qui ont accepté de voter, c'est les gens qui sont pour la nouvelle constitution. Et d'autre part, les gens qui n'ont pas voulu voter, c'est les gens-là qui devraient voter pour nous. Si les gens n'ont pas contré leur adversaire, l'adversaire remporte la victoire.
C'est au pays de prendre ses responsabilités et que vraiment nous pouvons prendre notre destin en main. Moi, je pense que les 91,59% reflètent bien le résultat des urnes. S'il y a eu beaucoup de oui par rapport à le non, c'est parce que tous ceux-là qui espéraient faire le non ne sont pas allés voter ces jours-là.
Le Front National pour la défense de la Constitution, qui regroupe les partis politiques et une partie de la société civile guinéenne, avait appelé au boycott de ce référendum et des élections législatives. Cet appel a conduit à des violences. Plusieurs personnes ont été tuées. Boycott et violence, des arguments suffisants pour ses opposants de rejeter ces résultats. Certains d'entre eux prédisent le pire pour la Guinée.
Je ne crois pas, parce qu'il y a eu des endroits là où on a un bureau de vote, il n'y avait que 15 personnes qui ont le droit de voter. Des lieux où on dit que c'est 39 personnes qui doivent voter. Il y a eu beaucoup d'irrégularités avant le scrutin. La participation n'a pas été effective.
Je pense que tout ça, la Guinée subira des sanctions économiques et politiques de la part de nos partenaires au développement, notamment la France, la CEDEAO et l'Union européenne.
Le pouvoir public n'a pas voulu associer les partis politiques crédible dans notre pays. Donc c'est une branche du RPG arc-en-ciel découpée qui est allée aux élections.
Selon la Commission électorale nationale indépendante, le taux de participation était de 61%. Prochaine étape, la Cour constitutionnelle pour confirmer ou infirmer les résultats provisoires. Zakaria Camara pour VO Afrique, Conakry.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Tchad, le gouvernement a institué l'état d'urgence dans les départements de Fouli et de Kaya dans la province du Lac. Il a déclaré également ces deux localités zones de guerre, décision qui fait suite à l'attaque de la position de l'armée nationale tchadienne installée à Boroma dans la dite province par Boko Haram, faisant près de 100 soldats tués. Les populations sont sommées de quitter immédiatement les villages situés sur les îles du lac Tchad, pour permettre à l'armée tchadienne de donner un coup de grâce à la secte Boko Haram qui a surpris l'armée tchadienne. André Kodmadjingar, notre correspondant à N'Djamena.
Mandat est donné pendant ce régime d'exception qui court du 27 mars au 16 avril aux autorités de la province du Lac d'interdire la circulation des personnes et de leurs biens, d'organiser des perquisitions à domicile de nuit comme de jour, d'instaurer le couvre-feu de 22h à 6h du matin. Elles doivent également contrôler la presse et les publications de toute nature, entre autres. Une situation qui inquiète les organisations de la société civile. Max Lualngar, président de la Ligue tchadienne des droits de l'homme, se souvient encore de l'excès de zèle des agents de sécurité dans des situations pareilles.
Nous avons encore en mémoire les exactions qui ont été commises à l'est du pays suite justement à une situation de régime d'exception. Donc il est à craindre effectivement des débordements. Déjà même les mesures qui ont été prises restreignent les libertés publiques, c'est vrai, mais l'état d'urgence est une situation légale. Mais nous voulons attirer l'attention du gouvernement sur les éventuelles dérives. Déjà quand on se rend compte que les populations ont été appelées à partir de leur maison, mais sans délai, c'est un peu exagéré. Il n'y a aucune mesure de sécurité. Mais ils iront où?
Pour le président de l'Alliance tchadienne pour la démocratie et le développement, membre de la majorité présidentielle Abdramane Diasnavaï, le gouvernement a raison de prendre ces mesures pour permettre à l'armée tchadienne de donner un coup de grâce à ces terroristes qui écument les frontières.
Nous sommes dans une situation de guerre. On n'a pas résilié sur les moyens. Donc les deux situations sont différentes. Dans le cas du Wadaï, c'est un conflit intercommunautaire. Et je crois que là, la question des droits de l'homme se pose. Et au niveau du lac, je crois qu'il n'y a pas à réfléchir. Il y aura sûrement des morts, comme disait le chef de l'État. Il n'y a pas d'autre solution. Et pour le régler, les droits de l'homme doivent reculer face à la sécurité. Donc la priorité est donnée d'abord à la question de la sécurité pour régler le problème. D'ailleurs, les Boko Haram, ils brûlent les civils. Même ceux qui se disent croyants, ils vont brûler les gens qui sont en train de prier. Avec ces gens-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les nettoyer.
Max Luangar, président de la Ligue tchadienne des droits de l'homme, exprime d'autres inquiétudes liées au risque de contamination de COVID-19.
Cette zone-là va faire frontière avec pratiquement trois pays, le Cameroun, le Nigeria et le Niger. Et vous savez que des cas ont été signalés dans ces pays. Il est à craindre que ces populations déjà aient été en contact avec les populations riveraines. Donc s'ils doivent migrer à l'intérieur du territoire, le risque justement qu'ils contaminent les populations d'accueil est grand. Quelles sont les mesures d'accompagnement prises même par l'État relativement au COVID-19?
Selon des sources proches de la cellule de veille et de sécurité sanitaire, des mesures sont prises pour éviter toute contamination si un cas arrive à être confirmé. André Godmadjingar Djamena pour VOA Afrique.
VOA Afrique, Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
En Afrique du Sud, où le confinement total a été déclaré pour enrayer la propagation de l'épidémie de COVID-19, les forces de l'ordre tentent de faire respecter les consignes. La police et l'armée ont été déployées dans certains townships et quartiers favorisés. Plusieurs personnes ont été arrêtées. Reportage de Patricia Yuan à Johannesburg.
Dans les rues du township d'Alexandra à Johannesburg, la police et l'armée patrouillent. Ils stoppent les véhicules et les gens qui marchent dans la rue. Où vont-ils? Ont-ils une raison valable d'être dehors?
Nous patrouillons dans le township pour voir s'il y a des gens qui ne respectent pas les instructions du président. Nous devons nous assurer que tout le monde est en sécurité et que personne ne fait des choses stupides qui vont transmettre ce virus. On ne veut voir personne dans les rues ou des groupes de gens assis dehors en train de boire. Mais je dois dire que la plupart obéissent.
Depuis jeudi minuit, l'Afrique du Sud est en confinement strict. Même les promenades occasionnelles ont été proscrites. Plus de visites aux proches, plus de sorties pour se dégourdir les jambes. Et les forces de sécurité sont censées y veiller. Une femme passe, elle revient du supermarché où elle travaille comme caissière. Elle montre son permis qui prouve qu'elle fait partie des employés essentiels.
Il faut comprendre que c'est pour notre bien. Ils nous protègent de ce virus. Les gens doivent rester chez eux, mais certains ne semblent pas comprendre. Je ne sais pas pourquoi. Ils ont tout expliqué à la télé.
De manière générale, le mot d'ordre est largement respecté. Les rues de Johannesburg sont presque désertes, en dehors de longues queues devant certains supermarchés, dans les quartiers populaires où les gens n'ont pas pu faire de réserve. Mais à Alexandra, un township surpeuplé aux habitations souvent minuscules, beaucoup peinent à ne pas sortir prendre l'air. Pourtant, la réalité de l'épidémie de COVID-19 semble avoir été intégrée par une majorité.
Ce virus est mortel et il touche le monde entier. Ici, il n'y a pas eu encore beaucoup de morts, mais le nombre de personnes infectées grandit. Alors je pense que ce que fait la police, c'est bien. Les policiers et les autorités ne sont pas nos ennemis. L'ennemi, c'est le virus. Et nous devons coopérer ou cela pourrait empirer.
Pour certains, cependant, il sera vraiment difficile de respecter les consignes, notamment pour les nombreux sans-abri que compte la capitale économique. Certains préfèrent braver la police.
La police nous a mis dans un bus et nous a emmenés dans un centre, mais il n'y avait pas à manger. Ils nous ont juste donné 4 tranches de pain. Il n'y avait pas de couverture. Moi, je préfère dormir dehors parce qu'ils nous ont dit qu'il ne fallait pas se retrouver avec plein de gens dans la même pièce. Il y en a qui toussent, et si quelqu'un est malade là-bas, il va tous nous contaminer. Mais il nous faut à manger.
L'évolution de l'épidémie sera en fonction du respect des mesures décidées par le gouvernement, mais la réalité sociale du pays risque d'être un obstacle. Patricia Huon, Johannesburg, pour VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
C'est tout pour cette édition matinale. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Seludia et de Michel Joseph pour la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.